Midi 13h, à votre santé.
À votre santé.
Philippe Robichon sur Beurre FM.
La santé qu'on décline sur Beurre FM AVS, à votre santé. Tous les jours entre midi et 13h, on parle de vous, de votre santé, de la santé dans son sens large. Avec aujourd'hui le retour de Azaïs Kelsi qui est avec nous. Bonjour Azaïs.
Bonjour Philippe.
Directeur de l'IERTH, l'Institut Européen d'Études et de Recherche en Thérapie Holistique. Et comme tous les ans, vous vous apprêtez à partir en voyage humanitaire.
Oui, dans le cadre de notre ONG, la naturopathie au service de l'humanitaire, dont je suis le président.
Voilà, l'imam Abdelali Mamoun est resté avec nous.
Choui, Amachi Bezaf. Inch'Allah. Ouais. C'est dans quel pays que vous partez ?
Alors, les questions arrivent.
Non, alors, l'imam Abdelali, ça va toujours. J'ai gardé l'imam parce qu'en fait, comme il était en retard ce matin, j'essaie de le garder pour tout à l'heure. Pour qu'il, j'ai du mal à le garder calme,
c'est
vous voyez.
Ça. Mais je pense que.
Une petite question. Il y a
Karima qui arrive très bientôt, donc là, dans le cadre de la gestion
elle
du stress.
Elle devrait pouvoir le gérer.
Voilà, c'est ça.
Alors, si Karima arrive à gérer l'imam Abdelali, parce que là, moi, je dis franchement.
Elle y arrivera. Et puis, je l'assisterai.
Bon. À une émission que nous avons choisi d'appeler Voyage humanitaire, un éveil à soi-même. Beaucoup de gens aujourd'hui essayent de donner un sens quand ils partent et quand ils se déplacent aujourd'hui. Et le voyage humanitaire, ça fait partie des sens qu'on donne dans son voyage. Ça veut dire quoi partir à l'étranger justement pour soit aider, soit soigner les autres, comme c'est le cas de votre voyage?
Alors, comme vous le précisez, Philippe, quand on va en fait en voyage humanitaire, on part avec la première intention. Très superficielle, mais elle est nécessaire, c'est d'aller à la rencontre de l'autre et d'aider l'autre. Mais en réalité, quand on est sur place et que les jours passent et qu'on est dans le feu de l'action, on se rend compte en fait qu'on s'aide soi-même et qu'on se redécouvre. On apprend à connaître ses limites et on se rend compte que ce que je fais en temps normal, dans des conditions optimum et exceptionnelles, fait que dans des conditions un peu plus extrêmes, émergent de nous des capacités insoupçonnées. On se rend pas compte, en fait, on voit de plus en plus des émissions sur le wild, des personnes qui vont, en fait.
Alors, le wild, c'est le sauvage.
Ça, là. Et donc, en fait, on voit des émissions en ce sens, c'est parce qu'en fait, les gens se redécouvrent et se disent, je quitte mon confort, le confort de tous les jours, pour dormir dans des conditions, autres, différentes. Je ne sais pas si c'est extrême ou pas, ou difficile, mais en tout cas différentes. Et je me rends compte, en fait, que je suis capable de dormir sur le sol. Je suis capable d'aller à la rencontre d'une personne qui est à l'opposé de mes valeurs et de l'accepter, l'accepter telle qu'elle est. Et de pouvoir transmettre et donner un tant soit peu de mon temps, déjà, parce qu'on se rend compte que là, on a du temps et qu'on le donne. Et aussi, un peu aussi de nous-mêmes, de cette énergie qu'on déploie au quotidien pour d'autres dans des conditions plus aisées. Et là, on les donne, cette fois-ci, vraiment plus profondément à des personnes qui sont vraiment, vraiment en attente et qui sont dans une difficulté psycho-émotionnelle extraordinaire. Et là, c'est la première approche que l'on rencontre quand on est en mission. Ça fait maintenant 2 ans, on fait notre 3e année avec Karima, et on se rend compte que l'approche, le déséquilibre psycho-émotionnel, c'est ce que l'on rencontre en grande, grande partie.
Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'on croit qu'on y va, qu'on part pour aider les autres, mais que la première personne qu'on aide, c'est soi-même.
Exactement. On ne se rend pas compte au départ.
C'est-à-dire qu'on ne le fait pas pour les autres, on le fait pour soi.
On ne sait pas qu'on ne le fait pas pour les autres. On y va avec cette intention d'aider les autres et on se rend compte en réalité qu'on s'aide soi-même. Les personnes que j'ai, l'imam Abdelali qui est ici, et il va peut-être aussi dire la même chose quand il accompagne les personnes pour aller faire le pèlerinage. On se dit, tiens, le pèlerinage, c'est facile, il y a juste à faire une circumambulation en fait autour de la Kaaba, et puis aller les amener à Mina pour faire le Safa et Marwa entre les deux collines, etc. Mais on se rend compte en fait qu'on a des personnes qui sont dans des difficultés déjà psycho-émotionnelles difficiles, parce qu'ils viennent en fait fatigués, ils viennent aussi parfois avec des dépressions, et toute l'énergie de l'accompagnateur, c'est de créer cet équilibre. Créer cet équilibre pour que déjà créer le lien entre les personnes, et c'est ce qui nous arrive nous, c'est créer le lien déjà entre l'équipe, pour que cette équipe puisse créer une énergie en fait équilibrée, harmonieuse, pour pouvoir justement la diffuser mais de façon très aussi parcimonique, parce qu'en fait il faut pas la donner de façon brutale, il faut la donner de façon très équilibrée au fur et à mesure des jours qui passent, parce qu'il ne faut pas s'épuiser, parce qu'on se rend compte aussi qu'on s'épuise. Quelqu'un qui part donc au pèlerinage ou qui part en mission humanitaire pendant de longs jours ou de longues semaines, c'est s'épuiser dès les premiers jours, dès les premières heures, dès l'arrivée. Donc là aussi il y a cet équilibre aussi de l'équipe qui doit créer d'abord un équilibre déjà psycho-émotionnel de l'équipe pour pouvoir la diffuser auprès de l'équipe qui est un peu plus large, donc ici nos étudiants, pour que ensuite, au fur et à mesure qu'on rencontre des gens qui vont être en difficulté, mais extrême, des enfants, on a rencontré des enfants, mais dans des situations de pauvreté qu'on n'aurait jamais vu si on n'avait pas voyagé. Et le fait aussi de l'accueillir avec un sourire, l'accueillir avec ce rayonnement d'amour, Ar-Rahma, cet amour rayonnant qu'on essaye de diffuser, eh ben en fait, en réalité, il nous ressource, il nous donne de la force pour pouvoir en fait amener la personne en fait à s'élever.
Mashallah, Laïberk, je ne peux que donc apprécier effectivement ce travail extraordinaire qui est le fait de dévouer son temps, son énergie, son argent pour des causes humanitaires, pour aider les nécessiteux, pour aider ceux qui sont dans une détresse totale dans certains pays. Effectivement, c'est une et surtout le travail, c'est aussi de dévoiler, d'attirer l'attention, de tirer la sonnette d'alarme, de dire il y a des gens qui meurent ailleurs. Ce matin, j'entendais encore dans les infos, ils vont bientôt légiférer une loi qui va imposer aux clients de ramasser leurs assiettes.
Le doggy bag.
Le doggy bag, voilà. Et c'est effectivement
Le gâchis, oui.
Voilà, c'est pas normal que nous, on se gave ici en Occident. On mange l'équivalent de 90% des ressources mondiales. Et que dans 90% des populations du monde, eux, ils ne consomment que seulement 10%. Voilà, c'est des rôles inversés. Et ça, il faut effectivement rééquilibrer l'économie dans le monde. Et ces actions humanitaires aussi jouent ce rôle-là.
Mais pour rebondir sur la question d'énergie dont parle Assaïs Kalsi, Imam Abdelali, c'est pas sur place que les gens sont fatigués. C'est quand ils reviennent, finalement. C'est-à-dire que l'énergie sur place, vous l'avez facilement. En fait, vous pouvez. Quand vous êtes au contact des populations et qu'il y a des choses à faire, finalement, vous levez à 4h du matin, vous n'êtes pas fatigué. C'est après quand vous rentrez que vous avez un espèce de contre-coup et que vous vous retrouvez face à une vie qui est peut-être moins utile, entre guillemets.
Alors justement, c'est intéressant ce que vous dites, Philippe. Ça dépend. L'approche qu'on met en place avec Karima et le docteur Elmir et le docteur Atlar qui est sur place, c'est que tout d'abord, on accompagne l'équipe. Parce que l'équipe, si elle n'est pas aussi dans des conditions optimum et efficientes, elle n'apportera rien. Et ensuite, on fait en sorte aussi qu'à la fin du voyage, on puisse apporter aussi ce regain d'énergie pour que les personnes puissent repartir, mais aussi arriver ici, dans leur lieu d'origine, dans des conditions aussi optimum et efficientes pour pouvoir continuer. Parce que, comme vous le dites, et c'est vrai, on le remarque pour des personnes qui font des longs voyages en pèlerinage ou des longs voyages, en fait, en voyage pour aller à la découverte de lieux antiques ou mythiques ou extraordinaires, quand ils reviennent fatigués. Parce qu'en fait, ils n'ont pas consacré les dernières 24 heures ou 48 heures aussi pour se reposer, mais se reposer sur le lieu même. Pas en fait au retour.
Ah oui, pas au moment du retour.
Exactement, parce qu'en fait, il y a besoin en fait de se libérer cette énergie qu'on a beaucoup donnée, cette force, pour justement se ressourcer, se régénérer. Et ensuite, au retour, on est vraiment avec une vitalité extraordinaire, sachant en plus que la vitalité, elle vient du fait qu'on s'est retrouvé, mais on a appris à se reconnaître. Parce qu'en fait, au départ, on s'est connu, on se connaît, mais en fait, on s'est reconnu et on s'est connecté à soi-même. Et là, c'est une énergie, c'est une vitalité. Et on revoit, en fait, les gens qui reviennent du pèlerinage, quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que celui qui revient, il revient comme si qu'il était venu.
Un nouveau-né.
Mais c'est ça. C'est parce qu'en fait, au retour, on se reconnecte à soi-même. Et qu'est-ce que nous dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Je pense que c'est un hadith qudsi aussi, mais qui est rapporté par le prophète. Man arafa nafsahu arafa rabbah. Celui qui se connaît, il connaît en fait la grandeur de son Seigneur. Et quand on va à la rencontre justement de cette beauté, en réalité de cette pauvreté, mais qui est en fait une apparence en réalité que Dieu nous montre, nous présente pour nous rappeler aussi notre propre pauvreté. justement parfois même spirituel et psycho-émotionnel, et dont on a besoin justement de ce rappel pour nous dire que tu es dans un bienfait extraordinaire. Cette énergie que tu as, ne la dilapide pas comme ça, va à la rencontre des autres, ils en ont besoin.
Il y a plusieurs degrés, à mon avis, de prise de conscience. Il y en a qui n'ont pas du tout de prise de conscience, c'est-à-dire qu'ils vivent au quotidien leur vie, comme on dit en français, boulot, métro, dodo. Hein. C'est tous les jours, c'est la routine. Hein, et voilà, ils ne sont même pas à la recherche d'un sens dans leur vie. Il y a ceux qui sont à la recherche d'un sens, mais ils ne le trouvent pas. Donc ils ont déjà un degré supérieur, ceux-là ils sont à la recherche de quelque chose.
Voilà, ils savent que c'est pas satisfaisant, ils le cherchent mais ils savent pas quel sens donner.
Il y a d'autres qui pense avoir trouvé un sens dans leur vie, mais véritablement c'est ce genre de voyage-là qui comprennent que tout ce qu'ils ont fait auparavant, toute l'énergie qu'ils ont dépensée pour d'autres vocations, eh bien c'était n'importe quoi, et que là véritablement ils trouvent un vrai sens à leur vie, c'est d'être au service de l'humanité, de la création d'Allah Azza wa Jalla. Pour adorer à Dieu, il faut d'abord être, en vrai, quand on dit ibadullah, c'est en vrai être des ibad ibadillah, d'être des serviteurs de Dieu. Et quand on dit des serviteurs de Dieu, il s'agit de toute l'humanité, de toute la création. Même comme ce qu'on vous faites en Indonésie à planter des arbres, هذه عبادة الله من خلال خدمة الخلق. En fait, d'être au service de la création, on est au cœur même de l'adoration d'Allah Azza wa Jal. On est dans une démarche spirituelle qui est intense et ça donne effectivement un sens à sa vie et ça crée des militants, des hommes enfin engagés. Et c'est ce manque d'engagement que l'on manque dans la communauté en général, hein, musulmane en particulier, mais en général, l'engagement des citoyens, c'est malheureux, mais il faut le dire qu'il y a beaucoup trop de millions de gens qui ne vivent que pour eux-mêmes. Et qui ne sont engagés que pour eux-mêmes et qui vivent un calvaire. Alors que s'ils comprenaient que c'est donné, c'est en donnant que l'on retrouve ce bonheur, eh bien, il s'engagerait très facilement.
C'est le sens de l'altruisme.
Ouais.
L'altruisme.
Alors pour prolonger ce que vous dites, Imam Abdelali, c'est que quand on va aussi à la rencontre des personnes, et les personnes, en fait, on n'a pas encore suscité en eux cette vocation, le fait d'aller à la rencontre aussi des personnes qui viennent à notre rencontre avec un désarroi, une tristesse, eh bien, on suscite, moi j'ai vu, en fait, sur le terrain, Karima et d'autres, le docteur Atlar et le docteur Elmire, mais c'est incroyable, des enfants qui sont venus en fait déprimés, mais je ne sais pas quoi faire de ma vie, ils repartent avec un sourire et des yeux complètement ouverts. Et on a là, pour revenir, quand j'ai lancé le renouvellement de l'expérience de cette année, j'ai eu en fait le président qui va nous accueillir. Il me dit, vous savez, depuis que vous êtes venu l'année dernière, on a des femmes qui se sont mariées, qui avaient pendant plus d'une décennie avaient vraiment fermé la porte au mariage. Ils se sont mariés. On a eu des enfants qui en fait sont passés en fait au lycée, alors que on est parti en fait en haute montagne. On a vu en fait un collège en fait vraiment sous une tente et qui eux normalement 90% s'arrêtent au collège et ensuite vont travailler. Me dit on a des enfants grâce à vous. Et ben en fait vont au lycée. Certains enfants partent au lycée. Rien que ça.
Le fait de voir que des gens dans une situation extrêmement rudimentaire arrivent à étudier, eux ils se disent mais attends, les chômeurs, comment on a avec tous les moyens que j'ai, j'étudie pas, je travaille pas.
Et surtout qu'on leur apporte eux, aussi d'autres choses. C'est-à-dire qu'en fait il y a aussi les approches, parce qu'on vient aussi avec des approches aussi de psychothérapie, des approches en fait aussi psycho-émotionnelles qui permettent à la personne de se relancer, de retrouver en fait aussi joie de vivre. Parce que là on vient aussi avec des techniques. Mm-hmm. Donc le naturopathe ne vient pas comme ça juste pour le dire. Juste pour dire je viens, ou alors pour donner à manger. Alors il est vrai qu'on a beaucoup d'ONG aujourd'hui qui plantent en fait des arbres, c'est super, qui en font creusent des puits, c'est extraordinaire, donnent à manger, c'est exceptionnel. On oublie aussi la partie psycho-émotionnelle. Sachez aujourd'hui qu'une personne qui a un déséquilibre psycho-émotionnel, quel qu'il soit, tristesse, dépression, tout ce qu'on veut, ne digère pas ou digère moins. Et si on ne va pas en amont justement de cette approche, c'est-à-dire ce qu'on essaye de mettre en place, c'est pour ça aussi que cette ONG est assez originale. Ben en fait, on a des personnes parce qu'on va fournir des repas aussi sur place aux orphelins. On va faire des choses comme ça. Mais si on n'apporte pas cet équilibre psycho-émotionnel, Moi, je vous le dis, parce que nous, on est dans le domaine médical, bah, les personnes ne disent rien du tout. Si une personne vient triste, oui, je ne suis toujours pas marié, j'ai 25 ans, et puis en plus, j'ai ma belle-mère, j'ai ceci, j'ai cela, donnez-lui tout ce que vous voulez comme nourriture. Ça ne marchera pas. Donc, on voit bien, en fait...
Enfin, vous connaissez la pyramide de Maslow, allez-y. Quand même. Et la pyramide de Maslow, c'est d'abord, on commence par subvenir aux besoins primaires.
Bien sûr, les besoins vitaux.
Voilà.
Les besoins vitaux.
Donc, on donne à manger, à boire, la sécurité, on vous construit une maison, et après... On en arrive
au besoin
de se réaliser. Donc là, je ne sais pas ce que vous voulez dire, c'est un truc de riche.
Oui.
De riche, ça arrive après.
Justement, comme c'est un truc de riche, eh ben nous, on veut essayer de le donner aussi aux personnes qui n'ont pas du tout les moyens de se mettre. Et c'est pour ça que la grande difficulté, c'est qu'il faut faire le maximum en peu de temps. C'est toute la difficulté, c'est ça.
C'est-à-dire arriver, voilà. Venir et puis repartir, c'est laisser les gens, si on les laisse comme ça.
C'est ça. Voilà, et toutes les personnes qui passent entre les mains ou des étudiants ou des personnes confirmées ne sortent pas tant qu'il n'y a pas eu une petite réalisation. Ça ne marche pas. On se permet, on ne laissera pas.
Il faut laisser une trace pérenne.
Voilà, il faut laisser une trace pérenne, une énergie qui va se régénérer et qui va se générer au fur et à mesure.
Bien, alors on en parle aujourd'hui, justement, les voyages humanitaires, un éveil à soi-même, on en parle si vous voulez témoigner, peut-être que vous-même vous êtes engagé dans des actions humanitaires et de santé, vous pouvez témoigner au 01 53 48 3000, vous venez partager votre expérience de vie, 01 53 48 3000.
À votre santé, reviens dans un instant sur Beurre FM. Midi 13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM.
Figurez-vous que les voyages humanitaires nous permettent de nous éveiller à nous-mêmes, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, et que c'est bon pour la santé. On en parle avec Azaïs Kalsi, qui est directeur de l'IERTH, l'Institut Européen d'Études et de Recherche en Thérapie Holistique, qui forme la nouvelle génération de naturopathes. Karima Chaldi-Baou a fini par arriver.
Oui, bonjour tout le monde.
C'est mieux que vous arriviez qu'avant la fin de l'émission.
Oui, bah écoutez, j'étais dans le dépassement de moi-même.
C'est ça.
Oui, il a fallu que vraiment...
J'espère que vous avez dépassé celles qui étaient au ralenti, les voitures.
J'ai dépassé celles qui étaient au ralenti, j'ai dépassé ceux qui étaient à l'arrêt. Et je crois que j'ai même failli dépasser la vitesse de la lumière.
Ah oui, dis donc.
Pour pouvoir arriver avec toutes mes intentions et avec toutes mes belles...
Je crois même que tu étais déjà là avant de venir. Oui. Donc c'est ce qui explique que tu as dépassé la vitesse de la lumière.
Ouais, elle était avec l'esprit tout à l'heure, on n'arrête pas de parler de toi.
Voilà, mais je suis là maintenant, en présence.
Les ondes scalaires ont une vitesse plus rapide que celle de la lumière.
Donc d'où le nouveau pseudo, Karima Magique.
Karima Magique, ouais. Oui. Karima Magique.
Votre mission, si vous l'acceptez, c'est de prendre en charge l'imam Abdelali.
Avec plaisir.
Je vous le confie.
Vous savez, les Marocains, on dit « ala ras ou l'ayn ». Alors, je vais le traduire, je vais faire du littéral.
Oui, l'Algérien ne comprend pas forcément.
Comment
l'expression.
Dans la prunelle de mes yeux.
Dans la prunelle de mes yeux, là, si on va mettre un peu de poésie dans la traduction. Mais si on traduit littéralement, c'est sur mes yeux et sur ma tête. Ala ras ou l'ayn.
On ne sait pas qu'au Maroc, cette expression.
Aussi,
hein,
en
dans le monde arabe.
Bah, dans le monde arabe, voilà, c'est de belles expressions. Anna, donc, l'imam Abdelali, j'accepte ma mission.
Bissouria bi'oulou ala ras ou l'ayn, ya.
Mashallah.
J'ai un IERTH qui, comme tous les ans, je vous ai coupé l'herbe sous le pied, Imam Abdelali. Je suis
pas
passé
problème,
peut-être un peu vite.
Vous avez coupé l'élan poétique, là.
Oui. C'est bon. Vas-y, on reprend. Relance, reviens.
Bien, un voyage humanitaire avec, comme thème central, la santé, à Midelt, au Maroc, dans le Moyen Atlas. Qu'est-ce que ça veut dire, finalement, déjà qu'un voyage qui est axé sur la santé? Est-ce que les gens vous attendent pour se soigner?
Oui, les gens, bien sûr, nous attendent. Donc, ils sont informés que la caravane arrive. Donc, une caravane, Zélie, je crois que tu l'as exprimé tout à l'heure. Tu l'as exprimé tout à l'heure. Avec donc des médecins, des infirmières, des naturopathes, des psychothérapeutes. Et puis, avec tous nos stagiaires de l'IRTH, dont nos élèves praticiens en relation d'aide.
Mais c'est pour soigner les...
C'est pour soigner les gens sur place,
les autochtones.
Les autochtones. Ouais.
Voilà.
Et vous croyez vraiment que c'est eux qu'on en a besoin de plus?
Non, mais justement, pourquoi est-ce qu'on a appelé cette émission l'éveil à soi? Parce que justement, le prétexte, c'est d'aller là-bas, d'aller rencontrer des gens, de dire, je vais aller sauver des gens. On utilise, en fait, on va dire, le syndrome un petit peu du sauveur, de vouloir aller aider. Pourquoi? Parce qu'il y a un appel intérieur à l'intérieur de chaque être humain. Homme, femme, peu importe. Il y a un appel intérieur à quoi? À être utile et en même temps à se nourrir de la reconnaissance quand vous allez soigner, aider quelqu'un, dans son regard. Azé, tu l'as dit tout à l'heure, j'écoutais dans la voiture en arrivant, tu disais dans le regard de l'autre, cette reconnaissance et cette gratitude de l'avoir aidé, et qui, dans cet échange-là, dans ce regard, il y a l'ouverture à moi-même. C'est-à-dire, regarde comment j'ai pu mettre mes talents, mes compétences, des toutes petites choses, alors que moi, d'habitude, je baigne, je suis noyée dans mon confort, dans le luxe, je suis bien, voilà, et que j'arrive là-bas, et le fait de donner un regard, de donner ses yeux. Les Japonais, vous savez, quand ils parlent, quand ils disent, quand on le voit dans certaines techniques d'aïkido, ils disent, tu donnes ton regard à l'autre. Donner son regard à l'autre, c'est quoi? C'est tu donnes ton âme, parce que les yeux sont le reflet de l'âme. Tu donnes ton âme et ton âme vient accompagner l'âme de l'autre. Et donc, du coup, bah, toi, tu as donné un soin, mais ce soin, il t'est revenu, en fait. Comment il t'est revenu? En ouvrant des espaces, des territoires, des frontières inconnues de toi-même. Et c'est ce qui se passe, parce que on a nos journées, donc on s'occupe des gens. Et le soir, quand on se réunit à l'hôtel, on a nos séances, nous, de débriefing. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Donc, le débrief global, c'est-à-dire de toute l'équipe, combien de gens on a soigné, avec qui on a été utile, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as exploré, toi, aujourd'hui, comme outil, qu'est-ce que tu as... Et en même temps, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Alors là...
Il y a des personnes qui s'effondrent.
Hein. Qui s'effondrent et qui disent, je ne pensais pas avoir cette attitude, cette réaction. Notamment, l'année dernière, on a rencontré beaucoup aussi d'enfants et de gens du troisième âge. Moi, franchement, je suis d'origine marocaine et j'ai été profondément choquée par le traitement des personnes âgées.
Pourtant, dans des villages où on ne s'imagine pas que les personnes âgées soient maltraitées.
Mais même,
Karima.
Philippe, vous savez, on ne s'imagine même pas, nous qui sommes de culture musulmane, de comment on doit s'occuper de nos aînés, de voir des situations...
Alors, donnez-nous un exemple.
On est parti en maison de retraite. Voilà. Ou plutôt ce qu'on
donc
appelle
ça existe là-bas
oui.
ce qu'on appelle soi-disant maison de retraite.
Des mourouas.
Voilà. En réalité, qu'est-ce qu'on a rencontré? On a rencontré à peu près 80% des personnes qui ont été rejetées par leurs enfants parce que ma belle-fille ne veut plus de moi, etc.
C'était au Maroc.
Au Maroc, ouais,
oui, Midelt. C'était pas en Tunisie ni en Algérie. C'était au Maroc. C'était au Maroc.
Oui, en Algérie, ça existe aussi.
C'est vous rentrez à l'intérieur du pays, dans le Moyen Atlas.
C'est ça. Donc, on rencontre beaucoup de personnes, en fait, qui sont dans des situations extrêmes.
Mais c'est dans
parce qu'ils ont été rejetés intentionnellement.
Une grande ville.
Dans la ville. Oui. C'est une ville qui fait 44 000 habitants.
Ah oui, quand même.
C'est pas petit. Donc, c'est une ville connue parce que c'est une ville minière. Il y a beaucoup, en fait, de galènes. Et d'autres pierres, en fait, aussi précieuses comme le quartz, etc., l'azulite. Et en fait, c'est une région où on a beaucoup de touristes qui viennent aussi faire, en fait, des randonnées. Parce que c'est très montagneux et des cascades.
Oui, n'ayez Allah yismahna fil walidin.
Ah non, mais voilà. Justement,
il y a pas de tout ça.
C'est le fait de s'occuper de nos aînés, d'avoir cet amour, cette empathie, cette bienveillance et compassion envers les personnes âgées. Bah de vous retrouver avec une dame, je me souviens, Azayez, qui avait une tumeur, ce qui semblait être une tumeur. Bon, on n'avait pas de radio, de matériel de ce genre-là avec nous là-bas, mais avec une grosseur, une masse au niveau du ventre, et qu'elle cachait ça avec son tablier. Tu te souviens, elle venait nous voir avec son tablier quand on lui demande de se déshabiller. Et dès qu'elle voit donc ses bras qui l'accueillent et qui s'effondrent et qui dit voilà, je suis obligée d'aller travailler, je fais des ménages par-ci et par-là. Là, je vous dis même pas la maltraitance déjà des situations inhumaines.
Justement, c'est ça qui est assez étonnant, c'est que dans nos pays, on voit des enfants même qui rejettent leurs parents. C'est ce qu'on a vu.
On imaginait que ça ne se faisait qu'en Occident. Aujourd'hui,
on l'a vu. Je suis là parce que c'est mon fils qui m'a mis ici, parce que ma belle, sa femme ne veut pas de moi. Et moi j'ai vu, c'est des personnes âgées, la plupart c'était des femmes. On leur avait fait même de l'acupuncture avec le docteur Atla et docteur Elmire. Mais en fait, qu'est-ce qu'on a fait? C'était pas de l'acupuncture, c'était juste être là aux petits soins.
Voilà, tout simplement.
J'ai vu des vidéos sur internet,
regard,
c'est effarant. Voilà. Dans le monde arabe où t'as des vieilles femmes qui on retrouve au milieu de la rue sur le trottoir, ou carrément carrément dehors de la ville, au milieu de route pour automobile, où le gars il s'arrête, il dit mais qu'est-ce que vous faites là, madame? Bah mon fils il vient de m'abandonner là.
C'est ça.
Il
m'a laissé. Quel est l'impact,
alors il y a un impact. Il y a un impact sur nous-mêmes et sur nos valeurs.
Il est là le principe, il est là, c'est pas pour voir parce que en France aussi, on peut, n'importe où, on va voir des situations au niveau
alors en France, social. On vous dira que c'est parce que les logements ne sont pas adaptés, que les emplois
ne
sont pas adaptés. Donc,
mais maintenant, notre responsabilité à nous, nous qui avons fait un voyage humanitaire, nous qui revenons avec cette expérience dans la tête et dans le cœur, qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce que ça va m'impacter, moi, dans ma vie de tous les jours? Qu'est-ce que j'aurais envie de changer? Il est là, quand on parle d'éveil à soi, c'est comment, moi, ensuite, je peux devenir un facteur du changement et de transformation. Transformation personnelle, d'abord avec ce que j'ai touché, ce que j'ai vécu, avec quelle empreinte je sors de là, pour ensuite transformer ça et avoir un impact sur la société. Et c'est en ça que nous parlons de « c'est vraiment un voyage transformationnel ».
Alors, pour prolonger, c'est important, c'est qu'on fait tout, et ça c'est important, on fait tout pour que les personnes ne reviennent plus avec ce syndrome du sauveur. Parce que justement, c'est
oui, parce que on part avec ce syndrome donc du sauveur. Donc, finalement, on se dit, je vais faire un voyage humanitaire ou je vais m'engager dans l'humanitaire pour sauver les autres, mais non.
Et donc, c'est quoi l'état psychologique dans lequel il est réellement?
Justement, j'en arrive, c'est qu'on fait tout pour qu'il ne revienne pas avec ce syndrome du sauveur. Il doit revenir avec beaucoup d'humilité et connaître ses limites. Et il se dit, je n'ai pas terminé en fait mon voyage d'introspection. Je continuerai encore autant de voyages que nécessaire pour me connaître encore davantage.
L'engagement.
Le premier, c'est pas suffisant. Le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Et à chaque fois, je vais à la rencontre de quelque chose qui est caché en moi que je ne connaissais pas.
C'est à l'image en fait. Vous savez, on trouve ça dans toutes les cultures et aussi dans la mythologie. On parle du voyage du héros. En fait, nous, on veut reproduire ça. C'est à l'intérieur de toi, tu as un appel, tu as une envie, tu as envie d'être utile, tu as envie de faire quelque chose, tu as envie de quitter ce monde, quand je dis quitter ce monde qui est insatisfaisant pour toi, pour aller te rendre utile, parce que c'est la quête.
Ta vie tous les jours, ce monde. Quand on parle de quitter ce monde, c'est quitter sa vie quotidienne.
Sa vie quotidienne, les petits trains-trains, la monotonie. Et du coup, tu vas partir tu vas faire ce voyage et à un moment donné, et ça fait partie aussi de la psychologie humaine, tu vas te retrouver à... Ok, j'ai répondu à l'appel, maintenant qu'est-ce qui se passe? On a eu des stagiaires l'année dernière, même nous, où quand on est dans le dépassement de nous-mêmes, de dire, attends, je reprends l'avion, je rentre à Paris, je reviens. C'est énorme, parce que l'attente de ces personnes qui attendent cette caravane avec tellement d'espoir, parce qu'ils en ont parlé entre eux, il y a le bouche à oreille, et puis de voir comment ils sont accueillis, que finalement on se dit, attends, est-ce que j'ai le cœur assez grand pour pouvoir contenir toute cette peine, toute cette misère, toute cette détresse. Et du coup, qui vient faire appel à ma propre détresse. Qu'est-ce que j'ai fui en quittant Paris, sous le prétexte d'aller aider des gens et d'aller sauver? Qu'est-ce que j'ai fui? Alors finalement, j'ai fui moi-même. Dans le voyage du héros, à un moment donné, c'est pour te retrouver toi-même, c'est pour aller t'explorer toi-même, te découvrir, parce qu'après, quand tu reviens chez toi, c'est là où tu fais les transformations. C'est là où tu vas faire... Est-ce que je continue à gaspiller la nourriture? Est-ce que je continue à gaspiller de l'eau quand on a vu que des enfants étaient atteints de saturnisme, parce que là-bas il y a le plomb. Quand vous voyez, parce qu'on
dans l'eau, vous parlez
dans l'eau, exactement, les nappes phréatiques sont complètement polluées.
Elles sont pas potables.
Quand vous recevez, vous accompagnez un enfant, la maman vous dit qu'elle a 9 ans et elle a la taille d'un enfant de 5 ans. Comment vous réagissez face à ça? Il est là en fait, et c'est en ça pour dire. On libère les gens du syndrome, on n'est pas là des conquérants, ni des conquistadors, ni des colonisateurs. On arrive avec nos médicaments, nos vêtements, nos ceci, non, avec beaucoup d'humilité.
Alors je peux poser une question évidemment qui est en rapport avec tout ça, mais un petit peu à l'écart. C'est votre organisation humanitaire, est-ce qu'elle a une connotation religieuse? C'est-à-dire, où est-ce que et pourquoi elle n'est pas intégrante, partie prenante d'une organisation telle que l'UNICEF ou je sais pas moi des organisations neutres, c'est-à-dire qui intègrent des non musulmans avec vous, quoi, puisqu'il s'agit d'actions humanitaires, les fameuses ONG françaises et internationales.
Alors c'est une très bonne question. Tout d'abord, les membres de l'ONG, il y a, pour être direct, il y a des non-musulmans.
Alors, c'est que ça s'appelle comment votre
ça s'appelle Naturopathie au service de l'humanitaire.
Existe, elle a été déclarée.
Ah oui, déclarée et tout. Il y a un site web, vous pouvez même faire des dons en ligne.
Naturopathie au service de l'humanitaire.
Donc, NSH Alliance, ONG. C'est une ONG donc officielle. Donc, c'est une ONG qui travaille avec le monde entier, au service de l'humanitaire au sens large du terme, au service de l'humain dans sa généralité, dans sa globalité. Il y a des non-musulmans qui travaillent avec nous, donc pour citer Jean-Charles Bétan, Philippe Bombeck, etc., qui sont des membres d'honneur.
Et est-ce Guitieux, que vous travaillez avec eux?
Bien sûr.
Est-ce que vous participez à des...
Alors, j'en arrive. Et donc, on a des partenariats comme avec Pierre Francôme, qui travaille, lui, dans son ONG à Madagascar. Cette année, on voulait faire donc un partenariat avec lui, mais il y a quelques petits problèmes logistiques qui nous ont pas permis cette année uniquement de faire en fait un partenariat avec lui, mais ça va se faire très prochainement parce que là-bas c'est des orphelinats, il y a énormément de d'enfants et ça, je pense que Philippe connaît très bien en fait les lieux et la région.
Ça pose d'autres questions, voilà. Les orphelinats aujourd'hui, voilà. Notamment au niveau de l'humanitaire.
Au niveau de l'humanitaire, je comprends. Ouais. Et maintenant, pour vous nous lancez une très belle perche, l'imam Abdel Ali. Pourquoi, en fait, on est peut-être pas encore connu? Nous, on a besoin de fonds pour travailler. On a besoin d'argent. Toutes les ONG ont besoin d'argent. Aujourd'hui, ce que l'on fait, c'est extraordinaire. Là, on va partir pour un peu moins de 10 jours. On va travailler avec 1 500 personnes.
Oui.
Et c'est pas
pour 1 500.
Non,
ou avec...
c'est-à-dire on va
et
soigner
de pour et avec. On va les soigner et on va travailler avec et pour eux.
Et pour eux. Donc 1 000 à 1 500 personnes à chaque fois. Ça demande en fait un investissement financier. Il y a du matériel à acheter. Mmh. Il y a en fait aussi, on fait des dons là-bas sur place. Auprès des associations locales que je remercie parce que quand on les voit, on parle en fait des personnes en difficulté et en détresse, mais les personnes qui supervisent ces associations. Et c'est extraordinaire ce qu'elles font et c'est difficile. Il faut aussi les aider et on a besoin de fonds. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site et je vous remercie de lancer cette
page. Notre page Facebook.
Solidarité-solidarity avec un Y en anglais, solidarity-ong.com et allez, il y a un onglet qui s'appelle Je donne. Donnez-nous parce qu'on a besoin d'argent autant que les grandes ONG.
Le moment, on s'autofinance.
Venez avec nous.
Parce qu'il y a beaucoup, par exemple, l'Indonésie.
Vous venez avec nous, bien sûr. Mais oui, bien sûr.
Oui. C'est d'inviter les gens à y aller là-bas et de dire.
Alors, nous, on n'a pas été invités, on a payé, Imam Adelie. Je vais être clair avec vous. Nous, on a payé notre voyage et on y tenait. Hein, je pense que tous les gens qui sont partis ont dit.
C'est une expression pour
dire. Oui, mais parce que c'est.
Demander à quelqu'un de venir avec toi, c'est comme.
C'est une œuvre de solidarité. Là, pour le moment, étant donné on est une jeune ONG. On n'a pas les fonds de l'UNICEF.
C'est ça, exactement.
Donc là, on s'autofinance nous-mêmes, c'est-à-dire avec notre travail respectif.
On a 600 kilos, on a ramassé 300 kilos d'habits, de vêtements. Là, il y a encore des choses qui vont arriver.
Je récupère aujourd'hui des fauteuils, des bébés.
Probablement, ça va être 500 ou 600 kilos. Attendez,
juste pour les acheter sur place là-bas.
Non, pas du tout.
Non, vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer juste pourquoi.
Non, l'imam vous expliquerez après.
Restez avec nous.
Voilà, restez avec nous. La naturopathie au service de l'humanitaire, on en parle jusqu'à 13h.
À votre santé. Reviens dans un instant sur Beurre FM. Midi 13h, à votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voyage humanitaire, un éveil à soi-même. Alors, on en parle aujourd'hui avec Karima Chadibaou, qui est directrice pédagogique de l'IERTH, l'Institut Européen d'Études et de Recherche en Thérapie Holistique, qui forme la nouvelle génération des naturopathes. Azaïs Kalsi, qui en est le directeur, est avec nous. L'imam Abdelali Mamoun est là également. On se posait la question aujourd'hui déjà de savoir pourquoi on partait faire de l'humanitaire. On a évoqué aussi la question de l'argent qui est centrale dans l'humanitaire. Vous parliez du prix de la liberté, mais le prix de la liberté, c'est garder son indépendance.
Absolument.
Aujourd'hui et de cultiver sa différente. Moi, j'aimerais savoir en quoi naturopathie au service de l'humanitaire, c'est une association qui est différente des autres. Qu'est-ce que vous avez de plus que les autres?
Alors, ce qu'on a de plus et ce qu'on a aussi de différent, c'est que la première des choses, c'est qu'on y va déjà avec la naturopathie, c'est-à-dire avec la médecine, on va dire, globale, intégrale et traditionnelle aussi. C'est-à-dire que le temps que dure la...
Donc, c'est pas médecin sans frontières, c'est pas médecin du monde.
Voilà, le médecin qui va venir soigner avec des médicaments, vacciner, faire ceci qui est très bien. Ou alors, d'autres missions humanitaires qui vont aller creuser des puits, monter des écoles, construire des écoles. Nous, notre différence, c'est quoi? On part du principe, et ça, c'est une de nos devises à l'IRTH, c'est que quand quelqu'un se sent bien, quand quelqu'un vit bien et qu'il se connaît, il est capable de tout faire. Donc ça veut dire quoi? Qu'on va apporter des soins au niveau psycho-émotionnel. On va les aider à bien se sentir, à vivre dans leur environnement. Parce qu'on en a beaucoup et on en rencontre beaucoup quand ils nous voient arriver de France. Et pour eux, la France, c'est l'Eldorado. Il y en a encore qui croient que c'est ça, mais on leur dit, ils déchantent très vite après, hein, quand on leur raconte nos expériences. Ce n'est pas l'Eldorado.
Ils disent, ils vont nous apporter des antidépresseurs. Absolument, ils vont venir avec des boîtes de Prozac.
Moi, j'en ai plusieurs, l'année dernière, des dames en burn-out, pour pas dire en dépression, qui disaient, vous avez pas des petites gélules, des petites choses. Je lui dis, écoute, nous, on travaille pas comme ça. Tu as tout en toi pour pouvoir te sortir de là. Et vous disiez tout à l'heure, avant la publicité, le Cher, vous disiez, pourquoi est-ce que vous êtes religieux ou pas religieux? On va utiliser, en fait, la culture, et c'est en ça local. Qu'on est aussi différents, la culture locale. C'est un peu de l'ethnopsie, c'est-à-dire, ouais. On va s'adapter à la culture et à la psychologie et aux traditions du village dans lequel on se trouve. D'accord? Et c'est en ça, en amont, on prépare aussi nos étudiants. On leur dit qu'ils vont trouver des situations, notamment aux femmes. Vous n'allez pas venir faire un discours sur l'émancipation féminine, ouais. Sur à une dame que vous allez voir que vous allez voir une ou deux fois ou pendant 10 jours, et vous allez lui dire, ah ben tu sais, ton mari te frappe. Ah ben il n'a pas le droit, tu dois te libérer, tu dois ceci, tu dois cela. Toi, au bout de 10 jours, t'es rentré chez toi, tu retrouves ton confort, mais la dame, elle est toujours dans sa situation. Mm-hmm. Du coup, on va leur donner quoi? On va transmettre des outils pour qu'ils créent eux-mêmes leur bien-être par rapport à leur situation. Mmh. Et pas par rapport à ma voilà, vision du pas, monde, à moi ou à cette Marseillaise.
Voilà. Tu exportes le...
Tu calques pas.
Tu calques pas. Voilà. Tu donnes... On sait que l'être humain, pour qu'il puisse se développer, bah, il a besoin de se connecter à sa valeur personnelle. Il a besoin de développer sa confiance. Il a besoin de se sentir utile. Il a besoin de se sentir reconnu. Mais qu'est-ce qu'on fait en donnant nos yeux, pour répéter cette belle phrase?
C'est une belle image. Ouais.
C'est une très belle image. Eh bien, je montre à cette personne que c'est une belle personne et que malgré l'épreuve, malgré la diversité, la difficulté, l'adversité plutôt, et malgré la difficulté, qu'elle peut trouver en elle les ressources pour s'en sortir, même dans ce contexte-là, même si elle est atteinte de saturnisme, même si c'est difficile et que, tout à l'heure, je t'entendais dans la voiture, tu disais, je me souviens des enfants qui étaient une école, alors mais ça, je trouvais ça aberrant. Alors nous, on voudrait aussi agir au niveau des autorités marocaines. On arrivait dans un village, un village fantôme,
en haut de la montagne.
Tout en haut de la montagne, où il y avait des anciennes constructions qui avaient été laissées par les mines des Français. Donc les murs, mais les toits, il n'y avait plus de toits. Donc les toits ont été pris par les villageois, et c'est normal, d'accord, pour pouvoir se protéger. L'école, l'association avec laquelle, ML, avec laquelle on a travaillé, a fait des pieds et des mains pour pouvoir réutiliser ces murs et mettre ses enfants dans ces murs à l'abri des intempéries pour pouvoir étudier dans quand même un minimum de confort. Eh bien, non. On dit non, c'est le truc à l'armée, il faut voir, c'est compliqué, les démarches administratives.
Mais ils ont mis une tente.
Et ils ont mis une tente. Vous imaginez avec le froid qu'il fait, nous on y était au mois d'avril l'année dernière.
Il y avait des
et il faisait froid, vent, et il y avait du vent, et ah ouais. Et les enfants étudient sous une tente, une espèce de tente, même c'est même pas une tente avec de la laine.
Mais hein, dans ce cas-là, est-ce que
une bâche.
Mais voilà. Est-ce que Karima, les autorités sur place le vivent comme une ingérence? Ils vont vous dire de quoi vous vous mêlez.
Oui, mais justement, c'est en ça.
Vous voyez,
c'est pour ça qu'on travaille avec des associations là-bas qui connaissent le système, qui savent communiquer.
On vient pas en fait pour imposer nos idées. Et...
C'est pas de l'ingérence. Voilà, on n'est pas des colons. Mmh. On vient pas dire. Et c'est en ça aussi qu'on est différent, parce que souvent, on le voit dans d'autres pays. Moi, je regarde beaucoup aussi les reportages et on voit, ils arrivent avec leur caravane, les médecins, les médicaments, et on leur apprend à se soigner. Avec la choube, avec des plantes. Ouais. Là-bas, c'est une région qui est très riche au niveau origan, thym, armoise, lavande. Et ben, on leur apprend à faire des décoctions. Quand tu as mal là, voilà ce que c'est en ça la naturopathie.
Et il n'y a pas des gens sur place, des sages, des personnes qui sont gardiens du patrimoine.
Il y a des tradis praticiens, comme pour reprendre l'expression qu'utilisait Pierre Francombe quand il était là, quand il est venu. Il y a des tradis praticiens, mais encore faut-il en fait qu'il y ait aussi cette volonté de transmettre.
Oui.
Parce que notre objectif aussi, c'est de rendre autonome. Nous, c'est aussi une volonté, faire en sorte que chaque personne que l'on va rencontrer devienne libre.
Mais justement, voilà. ces grandes organisations humanitaires, est-ce qu'ils n'ont pas depuis longtemps déjà réfléchi à cette question d'autosuffisance de ces pauvres, au lieu que de leur apporter des sacs de riz, de leur dire voilà, exploitez ce que vous avez sur le terrain.
Alors, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, on ne connaît que les grandes ONG, et les grandes ONG ne font toujours que la même chose.
Oui.
Médecine allopathique.
Voilà. Donc, ils apportent à manger,
construction, on creuse des puits, on construit des écoles, parce que là aussi, par rapport à l'école,
non, après, dire... après, il y a tous les vêtements, enfin.
Voilà, il y a les vêtements.
Et après, il y a les ONG qui interviennent dans les cas de catastrophe.
Voilà,
enfin, grande catastrophe.
Oui, voilà. Mais après, il y a des tsunamis, c'est toujours
d'un point de vue spécifique. C'est toujours d'un point de vue spécifique. Dans le cadre que nous, l'approche qu'on veut apporter, c'est la partie intégrative et holistique, c'est vraiment global. C'est aussi nous-mêmes, notre compréhension du monde. C'est-à-dire une compréhension du monde large. Oui. Et on ne vient pas avec notre vision du monde à nous et qui renferme en fait même la mission. On ne veut pas ça. Et ça, c'est important pour nous parce qu'on doit aussi transmettre, parce que d'un point de vue pédagogique, on doit aussi transmettre aussi cette compréhension aux étudiants qui viennent avec nous. On veut aussi que les thérapeutes qui nous accompagnent aient aussi cette vision, ne viennent pas aussi avec leurs propres présupposés.
Absolument.
Ne viennent pas en fait avec le monde de l'autre, c'est comme je le conçois. Non, là tu es dans le monde de l'autre. Il faut que tu sortes du monde de l'autre pour comprendre le monde dans lequel on vit. Et ça, c'est toute cette approche qu'on veut donner. C'est ce qui fait notre différence.
Notre différence qui est là, et donc on travaille avec nos étudiants pour leur dire, attention, là, avant de partir, vous avez une certaine représentation mentale de comment ça va être, mais quand on va être sur le terrain, c'est autre chose. Nous, on leur dit souvent, c'est la carte n'est pas le territoire. La carte avec laquelle tu pars n'est pas le territoire. Quand tu vas être confronté à un enfant, à une femme, qui va peut-être te rappeler l'histoire de ta grand-mère, ou ta propre histoire, tout simplement, ou de fait que... j'ai partagé, si vous le permettez, Philippe, une expérience que j'ai vécue dans cette mission humanitaire l'année dernière, et quand on s'est retrouvés dans les montagnes, et qu'on a rencontré des gens atteints donc de saturnisme, des enfants, et sur lesquels nous n'avions aucun pouvoir. Moi, personnellement, je sais que c'est quelque chose que je travaille énormément, c'est le sentiment d'injustice. Ça, c'est quelque chose qui me met, moi, dans des états pas possibles. Et de savoir et de ne pas avoir de pouvoir là-dessus, ben là, il y a une piste de travail pour moi de dire, OK, lâche prise, Karima, tu n'as pas de pouvoir là-dessus. Donc, un éveil à soi, je m'éveille à moi-même. Et je sais que certaines situations, parce qu'il y a la volonté divine, il y a le plan de Dieu. Mais comment, toi, tu t'insères dans le plan de Dieu à travers cette mission pour te découvrir toi-même et pour être aussi au service? Et c'est ça qui est le plus difficile.
Bien. Est-ce que la naturopathie, c'est une médecine qu'on peut pratiquer pendant 10 jours? Est-ce que c'est une médecine de l'urgence?
Non, c'est pas une médecine de l'urgence. Elle a besoin, en fait, de beaucoup de temps. Par contre, dans l'objectif de cette mission, c'est vraiment découvrir les limites aussi de cette approche, de l'approche holistique. On a de plus en plus de thérapeutes qui se disent, oui, je vais soigner, je veux faire ça, je veux faire ça. Mais nous, on parle de médecine intégrative. Et c'est ce que disent maintenant les grandes écoles de naturopathie, dont l'IRTH, les médecines intégratives qui intègrent tant l'allopathie que la naturopathie, que
donc déjà, etc. Tout le monde est bienvenu.
Voilà, oui, exactement.
Mais ça n'empêche pas qu'il puisse avoir une efficience qui est à court terme.
Il y a une efficience.
Par exemple, moi, personnellement, j'ai eu des problèmes gastriques. Il a fallu que je prenne un peu de Kronfol ou que j'ai pris de la cannelle avec du citron pour que tout de suite...
C'est vrai, puisque dans la naturopathie, il y a 10 grandes techniques. Par exemple, avec certaines... Et dans ces 10 grandes techniques, il y a aussi autant d'outils nécessaires pour ces techniques-là. Vous parlez en fait de la phytothérapie, qui est une des techniques, la phytologie. Et dans la phytologie, j'utilise en fait une des branches de la phytologie. Et c'est une réalité. On peut, dans la branche de la psycho-émotionnelle, la psychologie, il y a la PNL, le MDR, etc. Et tout.
Donc le là, c'est FT, le FT. On pratique beaucoup.
Voilà. Donc on va.
Vous n'utilisez pas le vocabulaire. Je crois que les auditeurs,
c'est fait exprès. Là, Imam Abdelali.
Il n'y a pas que moi. Là, non, c'est tous les milliers d'auditeurs qui écoutent. Là, ils entendent des abréviations.
Parce qu'en fait, il faut aussi préciser que la naturopathie, c'est une discipline complexe, scientifique, et ce n'est pas juste faire une formation de 3 jours et qu'on n'amène pas des étudiants juste pour plaisir de les amener. Oui. C'est aussi parce qu'ils doivent aussi mettre
des plantes sur le terrain.
C'est aussi mettre en pratique des choses qu'ils apprennent en cours et qu'ils se rendent compte en fait que la réalité du terrain est différente de la réalité du cabinet et que l'objectif de la réalité de terrain, c'est rendre plus humble celui qui est en cabinet et qu'il comprenne ses limites et qu'il doit travailler en réseau. Tant avec un collègue naturopathe, ostéopathe, acupuncteur, mais aussi médecin. Et qu'il ne doit pas se recroqueviller sur soi-même.
Être humble, voilà. Ça veut dire reconnaître ses limites et dire que parfois, cela ne relève pas de mon ressort, mais d'un autre spécialiste.
Exactement. Et qu'on ne va pas, en fait, faire le truc de Google.
Ça. Des fois, je me mêle des trucs.
J'utilise de l'huile essentielle d'encens pour le cancer. J'utilise
le jus de
betterave pour je sais pas quoi. Là, non, on n'est pas comme ça. Il faut justement aller sur le terrain pour revenir en fait sur soi-même, sur l'essentiel.
Qu'est-ce qu'on fait avec le jus de betterave? Parce que l'année dernière, vous êtes venu, je me suis tapé 6 mois de jus de pomme. Merci Karima. Je veux dire que c'est affreux à boire.
Bah, le jus de vépre.
Non, le vinaigre de pomme, je veux vous dire.
C'est moins d'anémie déjà.
C'est affreux à boire, le
jus de pomme. On en reparlera pendant
le vinaigre de pomme. On en reparlera pour le ramadan.
On en ramadan.
Et le jus de betterave, c'est pourquoi là?
Ah bah, je sais pas.
Je m'ennuyais un peu là. Je me disais, tiens, je vais me trouver un nouvel atelier.
On verra pendant le ramadan. Je viendrai avec mes tomates aussi.
Déjà, on s'attend à un programme ramadanesque. Rocambolesque.
On a besoin d'argent. Je reviens dessus. Excusez-moi, oui. Philippe. On a vraiment besoin de fonds.
Vraiment.
Alors, c'est vrai qu'on va envoyer du matériel. On va envoyer des habits, des vêtements qui, c'est aux frais de l'ONG. Mais on a aussi besoin, en fait, de financement pour aller, en fait, aller en aide ailleurs, pour aider, en fait, même aussi les autochtones ici en France,
oui.
Pour envoyer aussi du matériel, pour tisser des liens avec d'autres ONG. Les personnes qui vont creuser des puits, ben, nous, on va aller avec eux, on va aller à la rencontre pour faire d'autres choses, etc., etc. Comme toute ONG, une ONG s'auto, elle a besoin de financement et vous aurez des attestations en fait aussi de remise de fonds, c'est plein de choses. Ne vous inquiétez pas, l'argent en fait part dans des conditions extraordinaires, part en fait vers quelque chose d'utile et d'exceptionnel.
Alors justement, si on veut être utile et qu'on veut vous rejoindre et vous aider, comment on fait, Azaïs?
Alors solidarity-ong.com. Vous allez sur le site.
Solidarity, ça s'écrit comment?
Avec un Y.
Avec
donc
un Y.
Solidarity à la fin, tiré ONG, donc tiré du 6, ong.com. Vous allez sur notre site. Il y a un onglet Je donne. Il y a un onglet Contactez-nous pour venir avec nous. Vous saurez tout ce que l'on fait. Il y a les images, il y a des vidéos. Et vous allez voir. Et on aura cette fois-ci, on a créé une page Facebook. Je remercie Karim, une page Facebook.
Voilà.
Et cette fois-ci, cette année, vous allez voir en temps réel ce que l'on fait.
Alors, je
rappelle
que d'un point de vue islamique, pour tous les musulmans qui veulent faire une sadaqa,
voilà,
hein, c'est makhboula, yani, c'est considéré comme une sadaqa makhboula. Voilà. Ceux qui veulent se débarrasser aussi des intérêts bancaires, il y en a qui disent na manakosh riba, eh bien, c'est une bonne occasion de qui donner, se débarrasser. Voilà. Donc, vous pouvez donner à Solidarité
ONG. Solidarité-ONG.com.
Et on en a besoin. Vraiment,
et
vraiment.
La zakat aussi,
hein, la zakat
al-mal qui est donnée tous les ans. Donc allez-y, donnez, ça ira aux nécessiteux dans de bonnes conditions, inchallah.
Alors on prépare aussi une activité pour pendant le ramadan, mais on en reparlera avec Philippe d'ici là et Karima.
Merci d'avoir été avec
merci
nous, la naturopathie au service de l'humanitaire. On en parle ce matin et demain. Le docteur Delabo est avec nous. Très belle journée sur Beurre FM.
Votre magazine santé tous les jours, midi 13h, sur Beurre FM.